Radio Kapi. Le journal Patience Ngalula Mbombo à la présentation.
Le président de la République a lancé hier à Kalemi les travaux de la 11e session de la conférence des gouverneurs. Ces assises de 3 jours réunissent tous les chefs des exécutifs provinciaux du pays autour des questions liées à la gouvernance et la réussite du PEDEL 145 territoires dans les provinces. Les chefs religieux de l'Ituri réitèrent leur implication dans la recherche des solutions durables au retour de la paix dans cette province. Ils ont pris cet engagement à l'issue d'un atelier de 2 jours organisé à leur intention par la section des affaires politiques de la MONUSCO Bounia. L'invité de ce journal est Armel Katembera, chargée du genre du collectif 2250 Nord et Sud Kivu. Elle revient sur les actions que compte mener sa structure dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Bonjour. Avant d'aller plus loin, notez cette information. Le tribunal de paix de Kinshasa Gombe condamne l'opposant politique Seth Kikuni à 1 année de prison. Le verdict a été rendu hier mercredi. Le tribunal l'a reconnu coupable d'incitation à la désobéissance civique et propagation des faux bruits. Le 20 novembre dernier, le ministère public avait requis contre l'opposant une peine de 3 ans, mais les juges ne l'ont pas suivi. La défense de l'opposant promet d'interjeter appel aujourd'hui contre ces verdict. Elle estime que le ministère public n'a pas été en mesure d'éprouver la culpabilité de son client et qu'il s'agirait simplement d'un acharnement politique. C'est le 23 octobre qu'a débuté le procès du président des pistes pour l'émergence après sa détention prolongée dans les installations des services de sécurité. Seth Kikuni a été appréhendé depuis le 2 septembre par des agents de l'Agence nationale de renseignement avant d'être remis à son juge naturel. Tous les gouverneurs de 26 provinces que compte la RDC sont en conférence à Kalemie autour du président de la République. Félix Tshisekedi a lancé les travaux de la 11e session de ses assises de 3 jours hier mercredi. Cette année, les thèmes choisis est renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PEDEL 145 territoires. On écoute Félix Tshisekedi qui revient sur l'importance de cette réunion dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
La conférence des gouverneurs de province contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure, car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de nos provinces. Nous avons le devoir d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo.
À juste titre, les gouverneurs de 26 provinces et plusieurs autorités du pays ont participé à la séance d'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Les gouverneurs des provinces ont saisi l'occasion pour notamment dénoncer auprès du chef de l'État les chantages dont ils se disent victimes de la part des députés provinciaux. Les points avec Paulin Munanga.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, recommande aux gouverneurs des provinces de concentrer leurs réflexions sur certains aspects comme la gouvernance responsable, facteur clé du développement socio-économique, la gestion autonome et efficace des recettes pour les entités territoriales décentralisées. Le chef de l'État recommande en outre aux gouverneurs d'établir sur leur implication dans l'avancement du PEDEL 145 territoire. Profitant de cette occasion, le gouverneur de la province de l'Omami a dans un mémo du collectif des gouverneurs demandaient au chef de l'État de protéger les gouverneurs qui sont victimes, d'après lui, des chantages des élus provinciaux. Iron Van Kalombo.
Le collectif de gouverneurs de province relève la pratique presque constante de certains élus provinciaux de continuer à faire de leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif et les services publics un objet de chantage. Le collectif de gouverneurs de province sollicite de votre haute autorité de poursuivre avec le moratoire en vue de protéger la fonction de gouverneur de province.
La conférence des gouverneurs de province va s'étendre sur une période de 3 jours. Kalemi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Et puis, le leadership des femmes en RDC, quelle contribution pour la paix? Cette question était au centre d'un échange entre plusieurs femmes réunies hier mercredi au Town Hall de la MONUSCO à Kinshasa. C'est en marge de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, organisée par la section genre de la MONUSCO et Africa Women's Leaders Network. Ces rendez-vous étaient en quelque sorte un moment de réflexion pour étudier les voies et moyens d'intégrer la femme congolaise dans les instances de décision. Des femmes membres du système des Nations Unies et des organisations féminines ont pris part à cette importante réunion. Étienne Lissoumbou était présent pour les comptes de Radio Okapi. Suivez son reportage.
Après l'hymne national, place aux mots de bienvenue de la chef de la MONUSCO. Bintou Keïta brosse le tableau de la représentativité de la femme dans les instances décisionnelles.
Les femmes représentent plus de 51% de la population de la RDC, représentaient aussi 50% des électrices inscrits pour les élections de 2023 et 17% des candidats. Résultat, 13,4%, 64 sur 477 ont eu des sièges attribués à l'Assemblée nationale.
Nicole Boitia, directrice adjointe du cabinet des chefs de l'État, invite les femmes à se tenir debout pour prendre une place là où se prennent les décisions.
Nous demandons simplement qu'il faut qu'on continue à réfléchir sur ce qui reste à faire pour permettre à ce que l'intégration des femmes soit réelle dans tout ce qui concerne le secteur public de ce pays.
Pour sa part, Mireille Afamenzi, officier chargé du genre de la MONUSCO, souligne qu'il y a beaucoup d'avancées à ces jours sous le leadership des femmes.
La nomination du gouvernement actuel avec la première femme première ministre. Une autre avancée que l'on peut mentionner, c'est par rapport au processus de paix.
Rappelons que la résolution 1325 soutient la présence des femmes dans les instances de décision.
Je le disais en titre, la recherche des solutions durables au retour de la paix en Ituri nécessite la contribution de toutes les couches de la société. Pour atteindre ces objectifs, la section des affaires politiques de la MONUSCO à Bounia a clôturé mardi un atelier de 2 jours à l'attention de chefs religieux des différentes confessions religieuses. Selon la MONUSCO, les responsables religieux jouent un rôle crucial en termes de médiation et de cohésion des communautés déchirées par les conflits et les violences armées qui endeuillent cette province depuis de nombreuses années. Nous faisons le point dans ces comptes rendus de Jean-Claude Lokidile.
Les 30 chefs religieux présents dans cette rencontre ont pris l'engagement de s'impliquer davantage dans la résolution pacifique des conflits dans cette province qui fait face à de nombreux défis sécuritaires qui sont à la base de la déstabilisation de l'Ituri. Flavien Mouero est l'un des responsables de l'église 5e Selpa à Bounia.
Nous allons maintenant aller sur terrain là-bas pour aller sensibiliser, aller montrer que sans la paix, on ne peut rien, que nous tous, nous sommes vraiment concernés. Sans la paix, rien ne peut se faire. Le développement ne peut pas se faire. L'évangile ne peut pas être prêché.
Pour Valérie Nkondé de l'église 21e CNK, les responsables religieux doivent profiter de leur aura auprès de leurs fidèles pour véhiculer des messages de paix et de cohabitation pacifique.
On a de nos églises dans les milliers. Là-bas, on peut essayer aussi de parler avec nos pasteurs qui sont là-bas. Vraiment de prêcher la paix. Ça demande aussi l'appui de notre gouvernement, l'appui de tout le monde pour qu'on puisse arriver au bout.
L'objectif principal de l'atelier est d'apporter un soutien opérationnel au projet d'engagement œcuménique des églises et d'autre part contribuer à l'élaboration d'un plan d'action à mener sur le terrain dans le cadre de la restauration de la paix durable. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
De Bounia, rendons-nous au Nord Kivu, où les acteurs de la société civile des régions de Beni, Butembo et Lubero ont également convenu de renforcer leur collaboration avec la MONUSCO et d'accompagner les actions de la mission de l'ONU en vue de mieux assurer la protection des civils dans la région. Ces résultats sont les fruits d'un atelier de 2 jours clôturé ce mercredi. Atelier organisé par la section des affaires civiles de la MONUSCO Beni, dont l'objectif était d'explorer les voies et moyens pour une nouvelle collaboration entre ces deux acteurs clés de la protection des civils. Ricardo Rupande, le président de la société civile du secteur du Rwenzori, explique au micro de Guylaine Kassassia.
Aujourd'hui, nous sommes mis d'accord sur le fait de partir sur des bonnes bases. Donc, nous devons maintenant commencer à collaborer parce que la MONUSCO est partenaire au gouvernement. Et nous, nous sommes partenaires au gouvernement. Alors rendez-vous compte que l'ami au gouvernement est peut-être quelqu'un qui, je ne dirais pas ennemi, qui lui tourne le dos. Nous tous, on a senti que ce n'est pas normal. Il y a eu beaucoup de couacs, notamment à Butembo, à Lubero, dans les Rwenzori et partout. Il y a eu des problèmes et la MONUSCO nous rassure qu'exactement, elle veut aller sur, pas comme dans les années passées, elle veut faire les choses très bien. Et nous nous sommes engagés à l'accompagner. Concrètement, nous allons aider la MONUSCO parce que nous allons mettre à jour la communauté par notre langue, par notre jargon, par nos mimiques. Parce qu'il y en a. Exactement. Nous allons les utiliser pour que les gens comprennent. Parce que la MONUSCO est en train de partir. La MONUSCO ne veut pas partir avec une mauvaise note.
Adoption par les experts nationaux de la cellule technique du ministère des Droits humains de l'avant-projet de loi fixant les principes fondamentaux de la justice transitionnelle en RDC. C'est à l'issue de la retraite de deux jours organisée du 26 au 27 novembre au centre catholique Thérésanium de Kinshasa et dont la clôture est intervenue hier mercredi. Selon Jean-Pierre Samba, expert technique au ministère des Droits humains, ces documents intégrant les aspirations des victimes du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri sera sous peu soumis au Conseil de ministres par la ministre des tutelles Chantal Chambou Mwadianvita avant d'être transmis au Parlement pour son adoption et la promulgation après par le chef de l'État. Par ailleurs, il fait savoir que les résultats de la recherche portant sur les aspirations de la population de l'Est de la RDC seront intégrés dans les documents des politiques nationales de la justice transitionnelle. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Désormais, le ministère des Droits humains, au travers de sa cellule technique, est totalement outillé pour aborder avec détermination les questions relatives à la justice transitionnelle. Dès lors qu'il sera promulgué, nous aurons un outil qui va permettre à ce que la justice transitionnelle prise dans le plan national de son applicabilité se mette sur le terrain afin de rencontrer les préoccupations des victimes qui attendent. Ce sont des personnes qui ont perdu une partie, n'est-ce pas, de leur humanité et dont nous devons faire un effort pour que ces gens sentent qu'ils ne sont pas seuls, étant donné que les bourreaux sont toujours à leur côté et à leur trousse. Raison pour laquelle les recommandations ont été formulées pour que les gouvernements puissent, n'est-ce pas, se les réapproprier afin de faire en sorte que désormais nous puissions soulager la misère, n'est-ce pas, de ces populations au travers des 5 piliers de notre justice transitionnelle que sont la vérité, la justice, la réparation et éventuellement les garanties de non-répétition. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème. Il ne faudra pas que demain, les mêmes problèmes ressurgissent. Et enfin, il y a la notion du devoir de mémoire.
Il y a lieu de noter que cette retraite s'est matérialisée avec l'appui du Royaume des Pays-Bas dans le cadre du programme Just Future ainsi que l'accompagnement technique de l'ONG internationale Impunity Watch. Comment mettre fin aux décès récurrents dans la prison centrale de Beni au Nord Kivu? La question était au centre d'un atelier organisé ce mercredi au quartier général de la MONUSCO par ses sections d'appui à l'administration pénitentiaire et d'appui à la justice. 26 acteurs civils et militaires intervenant dans la chaîne pénale, mais aussi des agences du système des Nations Unies, des membres de la société civile et de l'administration pénitentiaire ont réfléchi toute la journée aux causes de cette mortalité inhabituelle. On estime en effet que la moyenne mensuelle des décès dans la prison centrale de Beni est de 7,4%, nettement supérieure aux 2% recommandés selon les normes internationales. Parmi les recommandations issues de cet atelier, il y a notamment les désengorgements de la prison. Tiongo Makelele, le directeur de la prison de Beni, fait la synthèse au micro d'André Kitenge.
Après analyse de tous, on a pu constater que c'est la surpopulation carcérale qui est à la base de ces mauvaises conditions des détenus. La prison de Beni a été construite pour garder 250, mais aujourd'hui nous avons 1500. Vous trouvez que ça fait vraiment une surpopulation grande qui impacte négativement les conditions de vie des détenus. Alors, les plus grandes recommandations, après avoir réfléchi, on a pu demander à ce que la prison soit désengorgée. Donc, il faut que les détenus diminuent et là, on pourra voir si les conditions pourront s'améliorer. améliorer. C'était une grande recommandation, on a demandé aux magistrats d'inspecter régulièrement la prison, mais aussi au niveau des tribunaux, de faire la célérité dans le traitement des dossiers. Ça pourra aussi impacter aussi les conditions de vie des détenus. Et aussi au niveau de l'administration pénitentiaire, on doit savoir que nous devons proposer une liberté conditionnelle à certains détenus qui sont dans les dormes, parce que ça, on doit transmettre à son excellence le ministre qui a la charge de la justice et garde des sceaux, pour pouvoir, à son niveau, s'il peut aussi accorder la liberté conditionnelle à certains détenus. Et cela va nous amener à désengorger la prison et les détenus pourront respirer.
Autre nouvelle, la directrice intérimaire de la Commission nationale pour la prévention routière, Saint-Père, Ituri, est accusée des détournements de plus de 5 000 $ américains. Dans une correspondance adressée au ministre des Transports et Voies des Communications, un groupe d'agents et cadres de la Saint-Père, Ituri, dénonce la mégestion et détournement des redevances perçues auprès de la société Kibali Gold Mining et en appelle à l'implication de l'autorité des tutelles pour des enquêtes. L'incriminé et jette tout en bloc.
Actualité internationale.
En Namibie, les électeurs attendent avec impatience les résultats des élections présidentielles et législatives qui se sont tenues mercredi. Ces scrutins pourraient être un tournant pour le pays. La vice-présidente Netumbo Nandi Ndaichwa, candidate du parti au pouvoir, l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, est pressentie pour remporter la présidence à 72 ans. Cette figure historique de la lutte pour l'indépendance pourrait devenir la première femme à diriger la Namibie. Cependant, les partis au pouvoir qui gouvernent les pays depuis l'indépendance en 1990 fait face à une érosion de son électorat. Lors des précédentes élections en 2019, il avait déjà connu un net recul, obtenant 56% de voix contre 86% en 2014.
L'invité.
Les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ne concernent pas seulement les femmes et les filles, mais aussi les jeunes garçons, les hommes adultes et les autorités. C'est ce qu'affirme le collectif 2250, une structure qui rassemble des organisations des jeunes et des femmes dans les deux Kivus. Ce rappel a été fait le lundi 25 novembre, date du lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour ces jeunes, cette campagne est axée sur la sensibilisation contre les violences auxquelles les femmes et filles font face. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Armelle Katembera, chargée du genre du collectif 2250. Elle s'entretient avec Rachel Kiesembangu.
Madame Katembera, bonjour.
Bonjour.
Le collectif 2250 a lancé ce 25 novembre les 16 jours d'activisme contre le VSBG. De quoi il s'est agi lors de ce lancement?
En fait, nous avons organisé un caravane motorisé de la place du 24, Major Vango jusqu'au rond-point ISP. Nous avons organisé ce caravane motorisé pour lancer officiellement le 16 jours d'activisme. Parce que le 16 jours d'activisme ne concerne pas seulement les femmes. Ça concerne aussi les jeunes filles. Ça concerne aussi les jeunes garçons qu'on doit sensibiliser et les hommes que nous devons sensibiliser pour lutter contre toutes ces violences basées sur les genres. Et donc, les jeunes filles sont en grande partie des victimes. Et c'est pour cela que nous avons commencé cette activité à travers le caravane motorisé pour sensibiliser les femmes et toute la population à lutter contre les violences basées sur le genre. L'objectif n'est pas seulement pour faire cette sensibilisation pendant les 16 jours. L'objectif, c'est de faire accepter à toute la communauté que pendant toute leur vie, ils doivent lutter contre les violences basées sur le genre. Que pendant toute leur vie, ils doivent éduquer leurs enfants, éduquer la jeunesse, éduquer même les autorités à respecter et à faire respecter les droits de la femme et surtout de la jeune fille.
Quel est le constat que vous, jeunes, au sein de votre collectif, avez fait par rapport aux violences basées sur le genre dans notre province du Sud Kivu?
Dans la province du Sud Kivu, nous avons remarqué beaucoup de choses, que ce soit dans le milieu du travail, le milieu étudiantin. On a compris que les femmes, leurs droits ne sont pas respectés. Et même chose pour la jeunesse, surtout la jeunesse que nous accompagnons dans le collectif 2250. Nous avons les jeunes filles dans le milieu scolaire, dans des universités, qui sont victimes de leur échec, qui sont obligées d'accepter d'échouer, pas parce qu'elles sont moins intelligentes, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé qu'à travers son sexe, elle peut avoir 2 points. C'est tout ça que nous voulons refuser dans cette province. Il y a le travail où il y a beaucoup de sollicitations sur le sexe pour accéder au travail. C'est de tout ça que nous voulons lire. Nous sommes en train de voir les femmes qui circulent avec les petites marchandises. On est en train de les enfermer dans des maisons. Les jeunes filles, on les enferme dans des maisons. On les viole parce qu'elles sont en train de chercher la nourriture pour leurs enfants. Pendant la période de vacances, on a vécu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes venus, on va profiter aussi de ces 16 jours d'activisme pour lutter contre toutes ces violences basées sur le genre.
Sur le plan national, le thème choisi, c'est Unis pour protéger les femmes et les filles. C'est quoi le grand message derrière ce thème?
Le grand message, c'est on connaît la souffrance dans laquelle la jeune fille, la femme vit. Et à travers ce message, c'est pour soutenir, tenir la femme la main, pour l'accompagner dans la lutte, parce qu'elle ne doit pas seulement lutter elle-même. Ce message, c'est pour inviter toute la communauté à tenir la femme la main, pour qu'ensemble, on puisse lutter contre les violences dont elles sont victimes.
Pour finir, qu'est-ce que nous pouvons attendre du collectif 2250? Quelles sont les différentes activités que vous comptez organiser tout au long de cette période des 16 jours d'activisme contre le VSPG?
En fait, nous avons prévu beaucoup d'activités. On a d'abord commencé par le caravane motorisé. Nous serons à Kamagema pour sensibiliser la communauté de Kamagema pour le respect des droits de la jeune fille, mais aussi le droit de la femme, pour les sensibiliser à sa approprier la lutte contre toute violence faite à la femme. Après demain, on sera dans le marché de Ngouba, on sera au Beach Muhanzi, nous allons monter à Kabare, nous serons à Walungu, nous serons dans tous les territoires. On a des points focaux, nous avons des organisations qui interviennent dans des territoires et nous-mêmes qui arrivons dans des territoires, on va faire ces activités tout le jour pour lutter contre les violences faites aux jeunes filles et aux femmes.
Je vous remercie, madame.
Merci, Rachel.
Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Billy Landry Betou, supervisé et coordonné par Pelé Kipela Mondo. Patience Ngalula Mbombo était à la présentation. Merci de l'avoir suivi.